Écoutez local. Écoutez Liberté FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans Douceur Féminine sur Liberté FM. LibertéFM.fr pour le site internet, mais aussi le 96.1 pour la fréquence. Cette semaine, nous allons parler de la poche des os. Et oui, tout ce qu'il faut savoir, car elle est souvent entourée de mystères. Comment être sûr que l'on a perdu les os? Peut-on perdre les os en dormant? Oui, ce sont beaucoup de questions que l'on se pose. Réponse dans Douceur Féminine. Alors certes, pas toujours aussi spectaculaire que dans les films, la rupture de la poche des os est parfois discrète, si bien que les futures mamans ont souvent la crainte de ne pas s'en rendre compte. On rappelle que la poche des os correspond aux deux membranes ovulaires accolées, appelées amnios et chorion, qui contiennent le liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus à l'intérieur de la cavité utérine, le liquide amniotique qui est produit tout au long de la grossesse, à la fois par les membranes de la poche des os et par le bébé lui-même. Son volume varie en fonction du stade de la grossesse, 200 ml vers 4 mois, entre 1 et 2 litres vers 8 mois et en moyenne 1 litre à terme. Cette poche remplie de liquide sert à la fois à protéger le fœtus des éventuels chocs et bruits extérieurs, à le maintenir à température corporelle, à lui apporter l'eau et les sels minéraux dont il a besoin, mais aussi à le protéger d'éventuelles proliférations bactériennes. La nature est plutôt bien faite. Les membranes ovulaires sont transparentes et fines, mais résistantes. Elles s'affinent et se fragilisent à l'approche du terme. Alors que l'une, l'autre ou les deux membranes ovulaires se rompent, le liquide amniotique s'écoule de façon plus ou moins franche. On parle alors de la fameuse rupture de la poche des os. Il existe d'ailleurs deux types de ruptures. Les deux membranes se percent, on parle de rupture franche. Si l'une des deux seulement se rompt, on parle de fissuration. Alors dans le premier cas, le volume de liquide perdu sera important et peut littéralement tremper les sous-vêtements de la future maman. Entre 500 ml et 1 litre d'eau et demie qui s'écoule sur le col de l'utérus. Impossible donc, vous l'aurez compris, de ne pas s'en rendre compte. En cas de fissuration, en revanche, le liquide s'écoule progressivement et par gouttes, ce qui peut rendre le diagnostic plus difficile. Il n'y a aucun signe avant-coureur à la rupture de la poche des os. Si elle se fait la plupart du temps à proximité du terme, il arrive qu'elle ait lieu bien avant le terme. L'aspect du liquide amniotique peut alors varier. Si la poche des os de la femme enceinte contient en moyenne 1 litre d'eau à son terme, ce volume peut aller de 500 ml à près de 2 litres en fonction des femmes. Lorsque la rupture est franche, le liquide s'évacue de façon importante, ce qui ne laisse pas place au doute. En revanche, en cas de fissuration, il va donc s'écouler progressivement et par toute petite quantité. Lorsque la maman a d'ailleurs un doute sur la nature de ses pertes, on lui recommande alors de se changer et de vérifier régulièrement toutes les heures qui suivent s'il n'y a pas de nouvelles pertes. Et si c'est de nouveau mouillé, il est alors préférable qu'elle aille consulter à la maternité où la nature du liquide pourra être vérifiée à l'aide d'un amniotest qui analyse le pH du liquide pour déterminer s'il s'agit bien de ce fameux liquide amniotique. On rappelle que ce liquide est normalement incolore, inodore et chaud. Cependant, si la rupture de la poche a lieu avant la 37e semaine d'aménorrhée, il contiendra des petits flocons blancs qui correspondent au vernix qui recouvre la peau du bébé pour le protéger du dessèchement. On rappelle qu'il arrive que le liquide amniotique ait en fin de grossesse un aspect plus opaque et verdâtre, qui ressemble cette fois plutôt à la purée de pois. Nous verrons dans quelques instants comment savoir si on perd les os lorsqu'on est dans son bain ou que l'on dort. Et une chanson tout à fait d'actualité de notre ami Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule.
Elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins. Je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux. Quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien. Sauf qu'il a les yeux bleus.
Jean-Jacques Goldman.
Elle a fait bébé, toute seule.
Tout est dit.
Ici, c'est Liberté FM. Liberté FM.
Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Liberté FM dans Douceur Féminine, 96 points pour la fréquence. Cette semaine, dans votre magazine, on parle de la rupture des poches des os. Lorsqu'on est enceinte, hein, bien évidemment. Alors comment savoir si on perd les os dans un bain, voire en se baignant dans une piscine ou à la mer? C'est une inquiétude courante chez la femme en fin de grossesse, d'autant plus que son périnée ramolli a souvent tendance à laisser pénétrer de l'eau dans le col de l'utérus, eau qui bien évidemment s'écoule progressivement une fois la future maman sortie de l'eau, la laissant croire qu'il s'agit peut-être du liquide amniotique. En cas de rupture franche dans la poche des os, la femme va sentir comme une dépression dans son ventre. Et même dans un bain, elle risque de s'en rendre compte et de sentir le liquide chaud s'écouler de son vagin. De la même façon que l'on sent bien ce qui se passe lorsqu'on fait pipi dans la mer. En cas de fissuration, en revanche, il est beaucoup plus délicat de faire la part des choses. Alors, au moindre doute, on consulte au cas où. Et sachez qu'on peut perdre les os en dormant. Eh oui! La future maman doit-elle nécessairement être en activité debout pour que sa poche d'eau se rompe? Pas du tout. Il faut savoir que la rupture de la poche des os ne dépend pas nécessairement de l'activité de la maman, mais aussi de celle du bébé, qui peut alors faire des galipettes dans le ventre alors que celle-ci dort ou se repose. Il est donc tout à fait possible et fréquent que la poche des os se perce au cours de la nuit, voire lors d'une sieste. La rupture de la poche n'est pas nécessairement liée au début du travail et donc aux contractions utérines. Il est tout à fait possible et même fréquent qu'elle ait lieu avant la moindre contraction de travail. A l'inverse, certaines femmes ne la perceront jamais, même pendant le travail. Elle doit alors être percée par l'équipe soignante à l'aide cette fois d'une pince prévue pour. Enfin, lorsque la poche des os se rompt, le risque principal pour le bébé, c'est le risque d'infection, car il n'est plus protégé de l'extérieur par ce liquide. Il est donc important pour la maman de se rendre rapidement à la maternité. Le degré d'urgence va dépendre de plusieurs facteurs. Si le liquide est opaque et vert et qu'il contient du méconium, il faut se rendre plus rapidement à la maternité. D'une part parce que le risque infectieux est plus important, et d'autre part, le fait que bébé ait lâché ses sphincters laisse penser qu'il est prêt à sortir. Lorsque la perte des os s'accompagne de fortes contractions, c'est que le travail commence. Il convient de se rendre rapidement à la maternité car les contractions utérines sont plus douloureuses une fois la poche des os rompue. Enfin, en cas de rupture avant le terme, donc avant les 37 semaines d'aménorrhée, la future maman doit se rendre immédiatement à la maternité pour être prise en charge par les sages-femmes ou par des gynécologues obstétriciens en cas de grossesse pathologique. Et puis la dernière question, quand on perd les os, on accouche combien de temps ensuite ? Eh bien, lorsque la femme est à plus de 37 semaines d'aménorrhée et qu'elle n'est donc plus à risque de prématurité, on lui propose un traitement antibiotique afin de protéger le fœtus d'un éventuel risque infectieux et on attend jusqu'à 48 heures pour la laisser accoucher de façon, cette fois, naturelle. Si l'accouchement ne se met pas naturellement en route dans les 24 à 48 heures, on le déclenche. Pour les mamans qui perdent les os avant la 37e semaine, une hospitalisation reste nécessaire. Elle est traitée aux antibiotiques, la maman, et reçoit deux injections de corticoïdes à 24 heures d'intervalle pour accélérer la maturation des poumons du bébé. Le but étant alors qu'elle se rapproche le plus du terme avant de la faire accoucher. Certaines femmes perdent les os très tôt lors de leur grossesse, parfois dès 5 ou 6 mois, et réussissent à mener leur grossesse à terme. On rappelle que le liquide amniotique se renouvelle sans arrêt et que ça n'est pas parce que la maman a perdu les os que le bébé n'est plus oxygéné et alimenté, puisque cela se fait, cette fois, par le placenta. Dans quelques instants, on parlera de l'aspirine et de l'ibuprofène encore trop consommés durant les autorités. Les grossesses, selon les autorités. C'est plutôt dans ce sens-là. Et nous, tout de suite, on fait place à Kylie Minogue, souvenez-vous. Kylie Minogue avec I Should Be So Lucky. C'est sur Liberté FM et c'est dans Douceur Féminine. .1 pour la fréquence et libertéfm.fr pour le site internet. On va terminer ce magazine avec l'aspirine et l'ibuprofène encore trop consommés durant les grossesses et les autorités qui désormais nous alertent sur ce problème. C'est l'agence du médicament qui s'inquiète de voir encore beaucoup trop de femmes enceintes consommer des médicaments à risque pour le fœtus, utiles certes contre les douleurs, la fièvre, les inflammations, les anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent être toutefois consommés avec prudence et surtout modération. L'Agence nationale de sécurité du médicament rappelle qu'ibuprofène et autres aspirines sont contre-indiquées chez la femme enceinte à partir du 6e mois de grossesse. Afin de mieux informer les femmes enceintes des risques potentiels liés à l'utilisation, l'agence dit avoir demandé au laboratoire de modifier le résumé des caractéristiques du produit et la notice des médicaments qui en contiennent. Les données de remboursement issues du Système national des données de santé montrent que le nombre de femmes potentiellement exposées reste très élevé. Entre 2018 et 2023, plus de 700 000 femmes enceintes étaient concernées, dont 26 000 après le 5e mois de grossesse, alors qu'ils sont contre-indiqués. Conséquences qui peuvent être très graves pour le fœtus, avec la toxicité cardio-pulmonaire, l'atteinte rénale, pouvant même conduire à une mort in utero. L'objectif est donc désormais de rendre plus clair et concis le format du résumé des caractéristiques des différents produits, que ce soit à destination des professionnels de santé, et la notice destinée aux patients et patientes. En raison des risques graves pour le fœtus, si vous êtes enceinte de 6 mois ou plus, vous ne devez absolument pas utiliser de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Celle-ci précise qu'avant le 6e mois de grossesse, il est possible d'avoir recours si et seulement si un médecin l'a prescrit, fausse couche, malformation, atteinte rénale, augmentation du risque hémorragique à l'accouchement, les risques liés donc à ces emplois de médicaments passés 6 mois de grossesse sont sérieux et nombreux, d'où cette mise en garde nécessaire. La NSM appelle également les professionnels de santé à être le plus vigilants possible. Il est judicieux de vérifier la gestationnelle d'une patiente enceinte avant de lui prescrire des anti-inflammatoires et de préférer le paracétamol en première intention. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Restez bien calés sur le 96.2 de Liberté FM. Dans quelques instants, c'est la suite de vos différents programmes. Nous, on se sépare, souvenez-vous, avec Kaoma et sa lambada. On peut danser et chanter.
vento que fica nua.
FM, c'est votre radio locale.